Ainsi donc, mon entretien de ce soir se situe dans une démarche à trois volets. Je sais que M. Artigot a bien décrit devant vous le milieu familial et celui de ses relations proches et amicales. Il me revient d'évoquer l'environnement plus large à l'échelle de la France, et vous verrez même hors de France, jusqu'en Afrique, l'environnement politique, culturel, social et surtout religieux qui était celui d'Émilie de Villeneuve de 1830 environ à 1854, année de sa mort. Et il m'a semblé que l'approche sous l'angle religieux de son destin et de son action ne devait pas se réduire à relever une attitude individuelle face à Dieu ou sa vie personnelle de prière ou de contemplation, mais au contraire consistait à mettre en valeur son comportement de femme et de chrétienne, responsable d'une organisation naissante dans un monde en évolution où les problèmes sont toujours complexes et où il est impossible d'isoler un seul aspect. Sur un premier point, il aurait pu sembler que la condition de femme d'Émilie de Villeneuve la mettait à l'abri des perturbations politiques au début du 19e, car à cette époque-là, les femmes n'étaient pas considérées comme compétentes en ce domaine. Mais elle faisait partie d'une famille d'aristocrates et de notables attachés à Castres et au Midi en général, à Toulouse, et elle n'a pu ignorer les événements de la vie locale et internationale. Sa famille, d'autre part, semble très liée au courant légitimiste, c'est-à-dire le courant qui soutient le roi Charles X. Moins peut-être son père que son oncle François. François de Villeneuve a été, à partir de 1825, administrateur du Midi, c'est-à-dire qu'il avait la haute main sur 26 départements du Midi. Et il s'y est montré si rigoureux que Paris a dû le rappeler et l'a envoyé ensuite préfet dans le Nord, dans le Cher et en Corrèze. Jean-Louis de Villeneuve, lui, a été maire de Castres, vous le savez, de 1826 à 1830. Et Émilie avait gardé, semble-t-il, de bonnes relations avec son oncle François. La révolution de 1830 a mis fin au règne de Charles X et elle voit l'arrivée au pouvoir d'un autre courant royaliste, d'une autre branche, les orléanistes, partisans de Louis-Philippe. C'est la fin de la carrière politique de l'oncle François. Il s'en consolera difficilement puisqu'il écrira en 1835 un livre, L'agonie de la France. Le père d'Émilie, Louis, perd la mairie de Castres, démissionne plutôt, mais plus modéré ou plus conciliant, il est de nouveau conseiller municipal en 1832 et il le restera jusqu'à sa mort en 1851. C'est donc à travers ce milieu royaliste, légitimiste ou plus largement conservateur qu'Émilie a été amenée à interpréter les mouvements politiques et sociaux de son temps. Son attachement à la ville de Castres, son choix de ne pas s'éloigner un jour, même pour se consacrer à la vie religieuse, montre la solidité de ses attaches régionales. Et je pense qu'elle a dû partager les causes du pays castré. La rivalité avec Albi, je pense, que la Révolution a consacrée, comme vous savez, en enlevant à Castres son évêché et en le frustrant du chef-lieu de département. Alors qu'elle était alors la plus peuplée, la plus développée économiquement, la mieux pourvue, semble-t-il, d'une élite sociale et culturelle du département du Tarn. Les attaches politiques, ou plus généralement sociales, ont permis à Émilie de trouver de bons conseillers pour sa congrégation naissante. Il suffit de citer l'abbé Moutou, supérieur du petit séminaire de Castres, à cette époque-là. L'abbé Moutou est un légitimiste confirmé. Il a été élu 6e sur 9 en 1848 député du Tarn à la Constituante. Il s'est ensuite rallié au Parti de l'Ordre et il a été l'un des 23 ecclésiastiques qui ont siégé à cette chambre. Les relations aussi sociales ont permis à Émilie de bien s'entendre avec Monseigneur de Gerfagnon, puisqu'il avait été lui-même très proche de la famille de Villeneuve. Et lorsqu'il a s'agit à Paris de faire reconnaître sa congrégation, elle n'a pas manqué d'introducteur pour la guider dans les divers couloirs des ministères concernés, en particulier au ministère des cultes. Et si elle a échoué, c'est peut-être que ses attaches légitimistes étaient trop connues, mais surtout parce que le gouvernement de Louis-Philippe a tout fait pour défavoriser l'accroissement des congrégations et des congrégations féminines à cette époque. Ce que Émilie de Villeneuve n'a pas pu faire en 1841, elle l'obtiendra par contre facilement en 1852, au début de l'Empire, et à partir de ce moment, la congrégation de l'Immaculée Conception sera reconnue. C'est en effet à partir de, ou à travers, si vous voulez, cet incident qu'on peut se rendre compte de l'influence de la vie politique sur les congrégations françaises au XIXe siècle. Il s'agit pour le gouvernement et pour les pouvoirs publics de l'époque de reconnaître et de maîtriser le phénomène des congrégations féminines que nous évoquerons plus loin. C'est Napoléon qui a décidé de les regrouper et de les mettre sous le patronage de sa mère, Laetitia. Et il leur a largement accordé des reconnaissances légales. On a les chiffres, vous voyez, 1261. Il ne s'agit pas de 1261 congrégations, mais 1200 établissements congréganistes. La Restauration, 1815 et 1830, 643, beaucoup moins. Beaucoup moins. Le règne de Louis-Philippe, 14, 1830-1848. C'est à ce moment-là qu'Émilie, 1841, forte de ses relations justement à Paris, a essayé, pour la fondation de Réalmont, d'obtenir une autorisation légale, sans succès, pendant 10 ans. Et elle l'a obtenue simplement. La révolution de 48, elle a été favorable aux congrégations, et le début du Second Empire, jusqu'en 1860. Après 1860, les autorisations légales ont pratiquement été supprimées. Mais nous y reviendrons un petit peu sur ces aspects-là. Voilà, si vous voulez, pour quelques aspects du milieu politique et de la façon dont peut se situer la congrégation de l'Immaculée Conception dans ce milieu. Mais, comme vous savez, le lien entre vie politique et vie religieuse est tout à fait important à cette époque. Et vous connaissez peut-être l'étude de M. Faury sur le cléricalisme et l'anticléricalisme dans le Tarn. Il montre comment le département du Tarn était à cette époque-là, en 1835 en particulier, où une enquête religieuse a été faite, à peu près coupée en deux, comme d'ailleurs une réalité religieuse qui s'est prolongée jusqu'à maintenant. Mais d'une façon telle que les problèmes politiques et les problèmes religieux se superposaient presque entièrement. Voici une carte du Tarn datée de 1833, donc tout à fait contemporaine d'Émilie de Villeneuve, avec les cantons et les arrondissements. Alors, sur cette carte, vous pouvez facilement voir les divisions religieuse et politique du département. En gros, une ligne allant de Saint-Paul-Cap-de-Joux à Valence d'Albi. Tout le sud-est du département, représenté par la montagne, est celui où la pratique religieuse est la plus forte et la plus constante. Au contraire, tout ce qui concerne la plaine, Lavaur, Gaillac, Cordes, Castelnau-Montmirail, etc., c'est beaucoup moins évident, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Or, si l'on prend les élections à cette époque, toute la partie sud, sud-est, est entre les mains des légitimistes. Au contraire, les voies républicaines ou non légitimistes se situent dans l'autre partie. Il y a donc entre les deux phénomènes une correspondance que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres régions de France, en particulier dans la région lyonnaise et dans l'Ouest. Et c'est dans ce climat qu'Émilie de Villeneuve a vécu sa foi. Ces réactions, en effet, de lien entre politique et religieux constituent une sorte de critère reconnu par tous, si bien qu'il n'est guère possible d'être considéré comme catholique si l'on n'est pas en même temps royaliste, si possible légitimiste, bonapartiste à la rigueur un peu plus tard, et de façon générale conservateur. Une bonne partie de la bourgeoisie, elle, est orléaniste, mais en même temps elle est voltairienne, c'est-à-dire plutôt détachée de l'Église. Tout autant d'ailleurs que les républicains, héritiers directs de la Révolution, et dont le souvenir est encore tout proche à cette époque. Vous savez qu'on n'a pas oublié à Castres les fameuses journées de mai 93, non pas parce qu'il neigeait, mais parce que le conventionnel Chabot, ancien capucin de Toulouse, était venu présider à l'exécution de 4 prêtres et d'un laïc complice. On comprend que dans une petite ville de 15 000 ou 16 000 habitants, un tel événement soit resté gravé dans les mémoires. Au plan social et culturel, le milieu des notables de Castres est d'ailleurs, qu'ils soient aristocrates et bourgeois, prêt d'adopter et de justifier ou de défendre, selon les cas, les valeurs considérées comme essentielles par ces catholiques conservateurs. Ces valeurs, ce sont celles qui font l'harmonie de toute société civilisée, selon eux. Ce sont des valeurs de hiérarchie, d'autorité, d'ordre et de service. Celui qui prône des idées de liberté, d'égalité, de conscience personnelle, de progrès, de bonheur, de plaisir et même de solidarité lui paraît plutôt suspect et dangereux. Et la grande majorité des responsables catholiques à cette époque, depuis le pape, les évêques jusqu'au curé de paroisse, ne cesse de dénoncer le péril social que ces idées portent avec elles. Un aristocrate célèbre de notre région, le vicomte Louis de Bonal, originaire de Millau, en Aveyron, s'est fait le théoricien éloquent de ce système de valeurs et a exalté le premier ses vertus qu'il considère comme tirées directement de l'Évangile et liées à la civilisation rurale traditionnelle, tandis que les autres vertus sont pour lui les fruits de l'orgueil des révolutionnaires ou de l'esprit mercantile des protestants. Et vous savez que Louis de Bonal a été l'un des premiers à prôner la famille restaurée selon ses vœux, qui doit devenir la première cellule de la société renouvelée. Et si l'on reprend ces valeurs conservatrices à cette époque, et en particulier l'esprit de service, il est facile de voir combien Émilie de Villeneuve a eu des témoignages multiples dans son entourage immédiat et dans son milieu. Vous savez que son père, durant son mandat à Castres, a créé une société de secours mutuel, sorte de caisse d'assurance. Il l'a appelée Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ce n'est pas la même que celle d'Ozanam. D'ailleurs, elle s'ajoutait à une douzaine d'autres sociétés déjà existantes. Vous savez qu'en 1828, il a participé à la fondation de la Caisse d'épargne de prévoyance de Castres. Et vous avez peut-être entendu parler de M. Debar, un ami de la famille de Villeneuve, qui a influencé d'une certaine façon la fondation d'Émilie. C'était un homme d'œuvre dont la tradition faisait vraiment le soutien des pauvres. D'ailleurs, chez Émilie, ou autour d'elle, on l'appelait la demoiselle du château, mais aussi la providence du village. Et Émilie a pratiqué avec l'exactitude, la rigueur et la persévérance qui sont la sienne, de 1830 à 1835, cette sorte de patronage. Elle ne pouvait ignorer la vie difficile et parfois dramatique des ouvriers de la mécanique de son père, comme on disait alors, plus exposés encore que les hommes de la terre, car ils avaient rompu, pour la plupart, avec leur communauté d'origine, et en ce début d'ère industrielle, ne pouvaient bénéficier d'aucun secours collectif venu de leur propre milieu ou de l'extérieur. Or, Castres, en 1830, est alors une ville en véritable développement économique. Elle a 16 000 habitants à ce moment-là, à peu près. Elle en aura 21 000 en 1851. Le textile se développe au point qu'un certain nombre d'hommes avisés, comme M. de Villeneuve, se lancent dans cette industrie. Et si vous connaissez le livre de M. Estadieu, vous pourrez trouver tous les éléments chiffrés qui font pour Castres de cette période une sorte de sommet industriel. C'est donc une réalité proche et douloureuse que la vie ouvrière à Castres en 1830-1840. Il y a de nombreux pauvres honteux qui n'osent pas se déclarer, des misérables, des enfants abandonnés, qu'il serait très facile de voler, dit M. de Barre, c'est-à-dire de recueillir ou de prendre en charge. Il ne manque pas non plus de filles déchues, prostituées ou tout simplement sans appui. En lien avec la mobilité des populations nouvelles ou simplement poussées par la difficulté de survivre. Or, s'il est un besoin qui soit vraiment visible à cette époque-là, c'est le besoin de secours. Et il est connu que les milieux légitimistes ont été ici et dès avant 48 porteurs d'un véritable souci social. Par contre, on ne connaît aucun catholique orléaniste de renom qui soit vraiment préoccupé de questions sociales. Dans le sillage des grandes enquêtes sur la vie ouvrière de l'époque, que vous connaissez, celle du docteur Villermé ou de Buret, qui eux-mêmes n'étaient pas catholiques, on a vu se lever une foule d'aristocrates et de bourgeois légitimistes qui essaient de porter secours au monde ouvrier le plus délaissé. Vous avez peut-être entendu parler de ce préfet du Nord, Villeneuve-Bargemont, je ne sais pas, je ne pense pas que les familles soient parentes, ou bien alors de ce député de Louis-Philippe, Armand de Melun. Ces hommes de bonne volonté, soutenus par leurs épouses, leurs mères ou leurs filles, désirent évidemment que le secours qu'ils apportent soit accompagné d'une véritable moralisation de la classe ouvrière. Leur charité, que nous considérons souvent comme individuelle, est en réalité animée d'une véritable dimension collective, en ce sens qu'ils veulent rétablir ou fonder les valeurs de hiérarchie, d'autorité et d'ordre, afin de reconstituer un tissu social que la société moderne tente à déchirer. Dans ce même sillage, quantité de congrégations féminines s'attellent à cette tâche, secourir, persévérer et moraliser, telles sont les lignes de force que les catholiques de l'époque s'imposent dans leurs choix sociaux. Et c'est aussi ce qu'a choisi Émilie de Villeneuve. À la miséricorde que lui proposait M. de Barre, elle a, pour les enfants abandonnés, elle a préféré le refuge pour les filles repenties ou simplement dénuées de tout appui moral et éducatif. Fidèle à ses origines et en accord avec les courants dominants de son temps, elle écrit, par exemple, dans les constitutions de 1852, ces paroles qu'il nous faut bien situer afin de ne pas les déformer aujourd'hui et de ne pas les juger de façon anachronique. Les sœurs doivent avoir pour leurs élèves, spécialement pour les plus pauvres, une charité pleine de tendresse et de dévouement, s'appliquer avec zèle à leur communiquer les connaissances nécessaires à leur position sociale, viser à ne pas les faire sortir de l'état dans lequel les a placés la divine providence et les former selon leurs besoins à l'amour du travail et aux ouvrages qui conviennent à leur sexe. Dans la même ligne de cohérence par rapport à ces valeurs dont je vous ai parlé, elle écrira dans les mêmes constitutions qu'il ne faut pas recevoir dans la congrégation celles qui auraient fait leur état du service domestique. Par contre, il n'est nullement déplacé que la demoiselle du château prenne part aux tâches ménagères de la communauté, comme le signalent plusieurs fois les mémoires de la congrégation, tout en faisant remarquer que l'ordre hiérarchique est établi et signifié par un fauteuil, un prie-Dieu pour la supérieure et des chaises à pliants pour les autres selon leur rang d'ancienneté, à la chapelle, à la salle de communauté et au réfectoire. Il est vrai que ces réactions et ces comportements ne font pas l'unanimité, même s'ils sont largement partagés par le groupe social bien représenté ici dans la région et ailleurs en France, par exemple à Lyon, dans le Nord, ou bien dans certains secteurs de Marseille. D'autres courants, à l'époque, se préoccupent de l'avenir social des plus déshérités, et en particulier des ouvriers. En France, vers 1840, ils se veulent souvent d'inspiration évangélique, et ils estiment trouver dans l'Écriture ce que Louis de Bonal n'y trouvait pas, la liberté et l'égalité sociale. À la suite de Marx, vous savez qu'on les appelle des socialistes utopiques, je crois qu'il serait plus heureux de les appeler des socialistes chrétiens ou tout au moins démocrates. L'un d'eux, Pierre Leroux, a mis en avant la notion de solidarité que nous utilisons si volontiers aujourd'hui. Il a écrit cela vers 1840, « La solidarité devant à ses yeux remplacer la charité, trop humiliante pour le pauvre qui se sent de fait assisté par le riche. » Et un groupe de chrétiens à cette époque-là, groupé autour d'un journal, l'Atelier, et d'un homme politique catholique, Philippe Benjamin Buchès, ont clairement dénoncé ce que nous appelons le paternalisme, ce qu'ils appelaient le patronage des classes dirigeantes, encouragé, disaient-ils, par les évêques et le clergé. Émilie a eu quelques difficultés, justement, avec ses premières œuvres. On l'a accusé d'exploiter les ouvrières et de faire baisser les prix par la concurrence. Mais elle n'a pas été la seule. À Marseille, à Lyon, il y a eu les mêmes accusations. Il n'est pas sûr qu'elles viennent toujours des socialistes chrétiens, mais en tout cas, elles sont significatives des conflits qui agitaient alors la société au sujet des solutions de la question sociale. Je m'arrêterai là-dessus parce que il y aurait bien des choses à dire, mais l'aventure d'Émilie est davantage et essentiellement une expérience chrétienne et spirituelle. Elle est marquée par une tradition et par une éducation, mais sa vie a été dans une congrégation féminine de vie active. Je m'explique. Vous savez qu'elle est née en 1811, qu'elle a perdu sa mère en 1825, qu'elle a été au château d'Hauterive pratiquement maîtresse de maison à partir de 1827, son père étant veuf et sa sœur mariée, et l'une de ses autres sœurs morte très rapidement en 1826. C'est donc quelqu'un de très indépendant, d'habitué à commander, de particulièrement sensé et mûri par la vie, à la fois les épreuves, mais aussi les responsabilités. Dès 1830, elle songe à la vie religieuse. Elle demande conseil à un père jésuite de Toulouse, le père Leblanc, qui d'ailleurs conseille aussi le père Michel Garicoitz, fondateur des Pères de Bétharram. Dans un premier temps, elle songe aux filles de la Charité, installées à Castres depuis très longtemps et qui sont environ à l'époque une quinzaine. Mais c'était accepté d'aller à Paris. C'était ensuite la possibilité de se retrouver dans une des innombrables fondations des filles de Saint-Vincent de Paul. Et les amis, la famille, les amis, les circonstances même s'y sont opposées. Émilie s'est résolue alors à une solution à moyen terme. Elle a laissé l'idée courir et s'apprivoiser peu à peu. Elle a laissé son père réfléchir. Et celui-ci a enfin accepté que sa fille devienne elle-même fondatrice d'une congrégation nouvelle, tout en restant à proximité. L'idée vient, semble-t-il, de M. Debar, un ami de la famille dont nous avons déjà parlé. Ensuite, après conseil, dont celui de l'archevêque d'Albi, Mgr de Gouali, la mise en œuvre a été possible en 1836 avec deux autres compagnes. Telle est rapidement l'histoire de ses débuts. Plusieurs aspects, plusieurs questions, me semble-t-il, se posent à cette lecture. Le premier, qu'il vienne à une jeune fille la pensée d'entrer dans une congrégation religieuse à cette époque. Certes, c'est une tradition fort ancienne dans l'Église catholique. Et l'on attribue même à saint Augustin la première règle pour cette expérience de vie chrétienne. Sous l'Ancien Régime, il y a eu des congrégations religieuses. Mais le XVIIIe siècle a tellement insisté sur les vocations forcées, à l'image de la religieuse Diderot, que les parents, pour la plupart, ont quelque appréhension. En 1830, les choses semblent changer. Nous voici dans une période toute nouvelle par son climat politique, comme nous l'avons dit, social, mais aussi culturel et affectif. C'est le climat romantique, où l'on célèbre la passion amoureuse et ses effets funestes et tragiques le plus souvent, mais où aussi on redécouvre le bien-aimé céleste, à la fois dans la vie quotidienne, dans l'art, dans la littérature, à travers des expressions qui aujourd'hui nous paraissent évidemment difficiles à assimiler. La Révolution, d'autre part, a désorganisé l'Église de France. Le Concordat de 1801 a rétabli cette Église, mais l'a centrée sur le clergé paroissial, a donc supprimé tous les religieux, et même les religieuses, du moins en ne les citant pas. Les religieuses qui apparemment n'avaient pas subi de grands dommages pendant la Révolution. Il y en a eu quelques-unes de décapitées ou emprisonnées, mais beaucoup moins que des prêtres. Les religieuses ont tout de même beaucoup souffert de cette époque. Elles ne se retrouveront que très peu nombreuses en 1815. Mais voilà que leur nombre va s'accroître d'une façon tout à fait étonnante. Plutôt que de le décrire, de le dire par chiffres, je vais vous le montrer à partir d'un graphique et vous faire participer à ce phénomène mieux connu maintenant depuis qu'on l'a un peu plus étudié, mais tout à fait remarquable et très, très étonnant. En 1790, l'Église de France, l'Église gallicane, comptait à peu près 90 000 prêtres, moines, religieux, frères, hommes. Au même moment, 55 000 religieuses, moniales ou congréganistes. J'appelle congréganistes des religieuses qui n'ont pas fait de vœux solennels. Alors je mets là-dedans les filles de charité, par exemple Saint-Vincent de Paul. À la sortie de la Révolution, après la Révolution en 1808, un premier recensement a été fait de tout ce personnel ecclésiastique. On retrouve environ 12 300 religieuses et 30 000 prêtres. Les autres, bon, ils n'ont pas tous été guillotinés, loin de là, hein, mais ils ont pris des chemins divers. En 1816, nouveau sondage de l'État, les religieuses sont déjà 16 000. 1816, oui. C'est ça, oui. Attendez, 12 000, c'est ça, 16 000, oui. Donc, et les prêtres, 30 000. 1831, juste à peu près, à l'époque d'Émilie, à peu près, les religieuses sont déjà 31 000. Les prêtres, seulement 40 000. Estimation. Hein. Pour les religieuses, les chiffres sont à peu près justes. Hein. Pour les autres, ils sont approximatifs. En 1861, après la mort d'Émilie, donc, qui est morte en 1854, les prêtres religieux et assimilés, 50 000 environ, les religieuses, 105 000. Certains diraient que c'est une catastrophe, mais c'est étonnant. Hein. Et c'est un phénomène très curieux qui ne s'est pas produit depuis le début de l'histoire de l'Église, certes. Et alors je continue sur la lancée. 1878, autre sondage, les prêtres 60 000 environ, les religieuses 135 000, 1900 130 000, 1940 140 000, 1960 115 000 et aujourd'hui encore beaucoup. les prêtres, voyez, voient leur nombre se maintenir autour de 55-60 et descendre par la suite. Voilà, si vous voulez, dans, globalement, ce phénomène très curieux et très étonnant et qui explique en effet que cette vocation religieuse ait été si répandue à ce moment-là et situe un peu la démarche d'Émilie. Mais il resterait à voir pourquoi ce phénomène. Il n'est pas unique. En Belgique, en Italie, au Canada, en Espagne, il s'est produit, mais avec à peu près 50 ans de retard. C'est à peu près à partir de 1870 que les religieuses vraiment se multiplient dans ces pays-là. Alors, pour l'expliquer, on a donné plusieurs, on a essayé de mettre en avant plusieurs hypothèses. Il semble que l'option pour le service religieux en 1830 corresponde à un choix valorisant, à un besoin et enfin à une adaptation ou à une réalité adaptée à la condition féminine du temps. Les religieuses d'Ancien Régime sont cloîtrées. Ce sont des moniales, sauf les sœurs de Saint-Vincent de Paul et puis quelques autres, s'il est vrai. Mais cloîtrées, elles sont atteintes par la réputation générale d'inutilité, de richesse et de vice que l'on fait dans l'opinion aux moines. Voici que, comme congrégation de vie active, elles deviennent utiles, elles vivent pauvres, et elle ne cause pas de scandale. C'est déjà intéressant. La Révolution, d'autre part, a voulu confier les services sociaux à la nation et les a soustraits à l'Église. Mais autre chose est de définir des positions particulièrement intéressantes à ce point de vue, autre chose est de les organiser. Et il semble qu'il y a eu de grosses difficultés, peut-être quelquefois un manque de volonté. Et le vide a été tel dans ce que nous appelons aujourd'hui les services sociaux qu'un certain nombre de dévouements se sont proposés et ont été acceptés d'où qu'ils viennent. L'un des secteurs en particulier qui a à ce moment-là le plus appelé a été le secteur de l'enseignement. Et il a fallu un véritable effort il s'est produit en France une véritable mobilisation sur ce problème. Les religieux et les religieuses y ont très fortement participé. Si nous prenons les tâches qui les occupaient à cette époque, et il est facile de voir justement ou de concrétiser cette évolution. En 1808, l'une des raisons pour laquelle Bonaparte a décidé de conserver les religieuses, c'est qu'elles étaient irremplaçables dans les hôpitaux. Environ 45% des religieuses s'occupaient de tâches hospitalières. Pour l'enseignement, à peu près 45%, et dans contemplative, carmélite, clarisse, qui n'était pas partie, qui était restée sur place, environ 10%. En 1861, c'est une situation qui est bien connue, à cause du sondage qui a été fait et qui classe les religieuses selon leurs emplois. On compte 67% des religieuses dans l'enseignement, 10% simplement dans les hôpitaux, 3% dans les refuges, c'est ce qu'avait fait Émilie de Villeneuve au début, les contemplatives 11%, à peu près le même nombre, et les divers, c'est-à-dire missions, autres services, 9%. Voyez donc un véritable appel qui se fait de ce côté-là. Et vous savez qu'il n'y avait pas assez de jeunes pour répondre à toutes les demandes de fondation d'école. Et Émilie de Villeneuve, ou celles qui lui ont succédé, même si au départ n'avaient pas tellement prévu l'enseignement dans leur perspective, ont dû ensuite s'y résoudre. Et non pas par principe, mais parce que la demande était là. Et par exemple, Émilie de Roda, qui voulait que ces religieuses soient cloîtrées, tout en étant enseignantes comme les Ursulines, c'est-à-dire recevoir des pensionnaires, a décidé à la même époque de constituer une seconde branche pour l'enseignement dans les paroisses. Voilà, si vous voulez, l'une des premières raisons de multiplication des congrégations féminines à cette époque. Autre raison, celle-ci plus sociale, ou liée, si vous voulez, me semble-t-il, au contexte culturel, c'est que le Code civil de 1804, le Code Napoléon, représente pour la condition féminine une véritable régression. La femme y devient une mineure à vie. Or, l'Église n'a pas tenu la même conduite. Elle a donné, au moins dans certains cas, aux femmes la possibilité de s'exprimer, de s'organiser, de prendre des responsabilités, d'agir de façon autonome, on dirait aujourd'hui de s'épanouir. Et c'est là un paradoxe que cette Église, présentée souvent comme par les libéraux, les gens avancés du temps, comme médiévale et régressive, ait permis aux femmes de mener des affaires, de prendre des responsabilités et d'inventer quelque chose de neuf. Ce paradoxe, on le trouve décrit dans un texte que nous pourrons lire ensemble, au moins en partie, d'un anticlérical confirmé, un certain monsieur Sauvestre, journaliste. Et l'hypothèse qu'il lance à son époque, en 1870, a été bien sûr suspectée de mauvaise foi. Aujourd'hui, elle est à peu près adoptée par tous les historiens pour expliquer cette floraison de vie religieuse à cette époque-là. Ce qui frappe d'abord dans les chiffres du recensement des congrégations en 61, c'est le développement excessif des communautés de femmes. Voilà, ça c'est son point de vue. Donc 12 000 maisons, 90 000 religieuses. Il n'en compte pas assez. Il lui en manque à peu près 15 000. Alors les congrégations d'hommes sont 5 fois moins nombreuses, c'est vrai. Si l'on cherche quelles sont, en dehors de la propagande pieuse, les causes de cet entraînement vers la vie monastique, on reconnaît qu'il y en a de plusieurs sortes. Pour les jeunes filles de la classe bourgeoise, les exigences des épouseurs en quête d'une dot ont dû déterminer nombre de vocations où le dépit suppliait la dévotion. Bon, ce n'est pas toujours très bienveillant comme analyse. Hein. Après tout, il n'en faut point médire. Un tel dépit est la marque d'une noblesse de caractère qu'on ne saurait méconnaître sans injustice. Il répugne à une âme fière qui a le respect de soi de se voir ainsi marchandée. Et pour plus d'une, c'est une mortelle blessure, un désenchantement inguérissable de ne trouver qu'un calcul à vide là où ses rêves de jeunesse lui avaient fait entrevoir l'union de deux cœurs, vision romantique de l'époque. Chez un grand nombre de jeunes filles, et ce sont surtout des natures d'élite, de telles déceptions font prendre le monde en dégoût. Pour celles-là, le cloître est un refuge, elles s'y jettent avec l'ardeur des espérances trompées. C'est de Chateaubriand tout ça, hein, un ami de la famille de Villeneuve. C'est un Chateaubriand. Et vous voyez que ça reste encore comme une explication, au moins, qui vient tout de suite, hein, vous voyez, lorsqu'on n'en a pas d'autre. D'ailleurs, la vie monastique semble promettre un but généreux à l'activité, une carrière à l'ambition. Là, du moins, la femme est comptée pour quelque chose. Il y a pour elle des occasions de se dévouer, des fonctions à remplir, des dignités à conquérir, et le salut éternel n'y court aucun risque, au contraire. Pour les filles sans fortune, l'attrait est bien plus grand encore. Le couvent leur offre à la fois sécurité et dignité. Dans notre industrie, telle qu'elle est actuellement organisée, il n'y a point de place pour la femme, point de profession, ou du moins bien peu, où elle puisse gagner par son travail de quoi vivre honorablement. La misère la menace, et derrière la misère, le vice se tient embusqué. Le cloître est donc également un asile pour les filles pauvres, et n'oublions pas que là, du moins, sous la bure, l'égalité règne. Voilà la description de ce qu'a fait Émilie de Villeneuve. Si la multiplication des couvents de femmes ne tient pas à ses seules causes, il faut reconnaître qu'elles y ont été pour beaucoup et que dans un grand nombre de cas, les dures réalités de la vie sociale ont dû déterminer des vocations inattendues et venir en aide à la grâce. Nous ne parlons pas ici de ces âmes molles, etc. Mais ce qu'on ne saurait nier, c'est que la coupable et dédaigneuse incurie avec laquelle on agit chez nous en tout ce qui concerne la condition sociale des femmes ne soit un danger public. Chez nous aussi, la femme est à peu près oubliée et restée jusqu'ici vouée à l'ignorance et par conséquent à l'isolement. Nous nous trompons. Ce que la loi lui a refusé, la religion le lui donne. Voilà. Vous voyez ? Et à la fin, quelle place avez-vous fait à la femme dans vos institutions nouvelles, dans votre société civile, dans la cité, comme vous dites ? Publié en 1870. Voilà donc, me semble-t-il, une première approche, ou du moins une explication qui permet de comprendre un peu mieux ce phénomène d'explosion des congrégations religieuses ou des religieuses à cette époque. Autre phénomène alors, c'est celui des congrégations. Car Émilie de Villeneuve n'est pas un cas particulier. Elle se rencontre avec environ 400 autres congrégations féminines au cours du siècle dernier. Un phénomène lui aussi massif et qui n'est pas tellement lié aux variations de la vie politique. Les raisons, peut-être le cloisonnement des campagnes françaises. 40% environ de ces congrégations sont fondées à la campagne, où l'horizon est celui du village ou de la paroisse, où le curé tient à avoir quelques personnes autour de lui pour l'aider. Mais 60% sont fondées en ville. C'est le cas de l'Immaculée Conception de Castres. Et là, il y en a d'autres à cette époque. Il y a, en 1830, en 1836, il y a certes les filles de Saint-Vincent-de-Paul, il y a la Présentation, il y a les Sœurs de la Croix, il y a, je crois, 6 congrégations déjà installées à Castres à cette époque. Quelle idée d'en faire une autre ? Les raisons semblent bien sûr liées au contexte et aux mentalités sociales du temps. Chacun tient dans sa vision propre, à son individualité. Chacun pense qu'il faut une forme nouvelle, qu'un détail est important. Nous en reparlerons. En tout cas, le phénomène, lui aussi, est étonnant. Il y a des années, en France, où 6 congrégations se sont fondées en même temps, jusqu'à 6 par an. On arrive ainsi à des taux de 55 ou 60 tous les 10 ans. Voici un comptage que j'ai fait, vous voyez, de ces congrégations. Alors, le véritable départ des congrégations analogues à celle d'Émilie de Villeneuve, c'est la Révolution, 1792. De 1792 à 1800, 7. Ensuite, 1800-1810, 31. 35. 60. De 1820 à 1830, 6 par an. Un peu partout en France, hein, tous les diocèses français. 1830-1840, 55, dont Émilie de Villeneuve. 1840-1850, 64. C'est Louis-Philippe. Hein. Vous voyez, ça n'empêche pas l'ardeur fondatrice, au contraire. Même, peut-être qu'ils avaient pensé avant. Hein. 66, de 1850 à 1860, première partie du Second Empire, et puis 44, et puis 26, et puis 2, et puis 7, et puis c'est fini. Donc, un phénomène massif et limité. Alors, pourquoi est-ce fini ? Sans doute parce que il y a saturation, il y a seuil, comme on dit. Ça fait beaucoup quand même, 400 congrégations en France. On constate le même phénomène en Italie, en Belgique, au Canada, mais à partir de 1870, c'est-à-dire à peu près la même courbe de fondation et de nombre de religieuses, avec à peu près 50 ans de retard. Si j'aurais pu exploiter alors les fondations de congrégations masculines. Alors, dans les congrégations masculines, il faut aussi compter les frères enseignants.
Alors 5, vous voyez, de 1800 à 1810, 11 de 1810 à 1820, c'est là que se fondent les grandes congrégations, les nombreuses congrégations de frères enseignants, 1820-1830, 1850-1860, congrégations missionnaires, par exemple les missionnaires d'Afrique, les missions africaines de Lyon, les pères d'Issoudun, les pères de Bétaram, hein. Et puis 4 et 0. En tout, environ 51 congrégations masculines différentes, y compris les frères enseignants, qui sont à peu près une trentaine. Mais aucune proportion avec les congrégations féminines. Donc, des chiffres tout à fait étonnants, que vous ne connaissiez peut-être pas, mais ça, c'est pas tout à fait nécessaire, mais ça vous permettra de mieux situer Émilie, je pense. Et aussi étonnant, c'est le nombre de femmes qui se sont attelées à cette tâche difficile et ingrate de mettre sur pied une congrégation. De femmes, dirons-nous, oui, à peu près 40% de ces congrégations ont été fondées par des femmes seules. Mais le même chiffre par des femmes avec un homme, un prêtre en général, ou un évêque. Un seul laïc. Et enfin, le reste, 20% environ, par des prêtres ou des évêques, seuls, enfin pas seuls, puisque c'était difficile, mais on a oublié le nom de la fondatrice ou des premiers membres de la congrégation. Alors, Émilie de Villeneuve, c'est le cas de la fondation par une femme seule, qui a seule pris sa décision, qui a pris conseil, certes, mais qui n'a pas été chaperonnée et qui est restée autonome par rapport à toute influence masculine. C'est à peu près le cas d'Émilie de Roda, à peu près, un peu moins. C'est le cas aussi d'Émilie de Vialard. Ce n'est pas du tout le cas de l'abbé Roucou, pour les sœurs de Massac, par exemple. Ce n'est pas le cas non plus pour les sœurs de Veilas, dans l'autre que je connais mieux. On ignore à peu près le nom des premières fondatrices. Ce n'a pas été le cas, par exemple, pour les petites sœurs des pauvres. Jeanne Jugan est la première fondatrice, mais 50 ans, elle a été reconnue telle 50 ans après sa mort, à peu près. Le reste du temps, on l'avait oublié. Il est vrai que les trois dont je vous ai parlé, Émilie de Villeneuve, Émilie de Roda, Émilie de Vialard, les trois Émilie, appartenaient à l'aristocratie. Et c'est en effet cette catégorie sociale qui a donné environ un cinquième des fondatrices au XIXe siècle. Un cinquième, 22%. Et parmi ceux-ci, surtout jusqu'à 1840. Ensuite, ce seront des filles de la bourgeoisie. Et dans cette aristocratie, c'est surtout l'armée et la marine qui fournissent le plus grand nombre d'initiatives. Vous voyez qu'Émilie se situe bien et bien ciblée dans ce cadre-là. Ensuite, donc, la bourgeoisie prend le relais avec à peu près 42% des fondations. Viennent ensuite l'artisanat, le monde rural et les ouvrières, 4%. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jeanne Jugan. Il est difficile, certes, à des congrégations si nombreuses et finalement si proches de se différencier et de rester original. Il y faudra beaucoup d'imagination et beaucoup d'appels au symbolisme, coutumes, règlements, pratiques spirituelles et costumes. Et non. Pourquoi Émilie a-t-elle choisi le nom de l'Immaculée Conception pour sa congrégation? Autre question possible. Il semble qu'elle avait un grand attachement à la Vierge, mais un attachement qui marqué en particulier à l'égard de l'Immaculée Conception. Or, c'est un courant qui a commencé vers 1830. Et tout à fait un peu par hasard, j'ai découvert que le diocèse d'Albi était lui aussi partie prenante dans ce courant-là. Ceci à partir du premier catéchisme d'Albi qui a été fait par Monseigneur de Gouali en 1835. Avant, Albi avait trois catéchismes. sous l'Ancien Régime, trois diocèses, bien sûr. À partir de la Révolution, en 1806, le catéchisme national, qui n'a pas tenu. Et à partir de 1815, trois catéchismes, l'ancien de Castres, l'ancien de Lavaur, l'ancien d'Albi. Mais en 1835, Monseigneur de Gouali a fait un catéchisme unique et il a prévu ce chapitre sur la Sainte Vierge. La plupart des catéchismes de la région que j'ai consultés, ceux de Toulouse, Monseigneur d'Astros, ceux de Carcassonne, ceux de Mende, ceux d'Auch, expliquent le « Je vous salue Marie ». Alors ici, leçon 11, troisième partie, « Des honneurs que l'Église rend à la Sainte Vierge ». Pourquoi? Quel titre? Qu'est-ce que l'Église honore principalement de la Sainte Vierge? Oui, c'est là. Hein. Sa conception immaculée, sa nativité. Ensuite, en détail. Pourquoi dites-vous que la conception de la Sainte Vierge est immaculée? Parce que, selon l'enseignement commun des théologiens, la Sainte Vierge, par une grâce spéciale, a été conçue sans aucune tache du péché originel et qu'il paraît convenable à la majesté de Jésus-Christ que sa Sainte Mère n'ait pas été un seul instant sous la puissance du démon. Voilà. C'est ce que reprendra la définition du dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Et nous sommes ici en 1835, imprimé chez Papayou à Albi. Il y a donc, voyez, me semble-t-il, c'est possible, une raison locale en tout cas, et une véritable, un courant, au moins chez celui qui a rédigé le catéchisme et qui l'a proposé au diocèse. Il y a en France à peu près, à cette époque, une dizaine de congrégations qui ont pris ce titre de l'Immaculée Conception. Quant à au patronage de la Vierge, c'est le premier parmi les congrégations religieuses, 40%, suivi de près par Saint-Joseph, 37%. Mais distancer largement Jésus, voyez, avec seulement 27%. Autre détail, alors, le costume. Le costume, vu par les hommes, par un homme, par moi, l'imagination que cela requiert, l'énergie qui a été dépensée à ce sujet, les variantes successives semblent quelquefois sans proportion avec le résultat obtenu ou l'objet même du débat. Mais à cette époque, le costume a un sens très particulier. Il y a une véritable sociologie de l'uniforme et on y trouve la volonté d'en faire le support d'un message et d'une action. Reconnaissons d'ailleurs à Émilie de Villeneuve un goût parfait en ce domaine et un véritable sens de la mesure, si bien qu'elle a réussi à intégrer le costume de ses sœurs profondément dans la vie sociale. On les a appelées non pas les sœurs de l'Immaculée Conception, mais les sœurs bleues, le couvent bleu, les sœurs bleues de Castres. Et grâce à cela, le nom de cette cité est illustré aujourd'hui dans le monde entier. L'une des conséquences majeures, en tout cas, de ce phénomène en général au XIXe siècle, c'est ce qu'on pourrait appeler la féminisation du catholicisme dans notre pays. La féminisation, en tout cas, des permanents du catholicisme. Progressive et commencée vers 1850. Phénomène très curieux par rapport à l'Ancien Régime. En 1790, parmi les permanents, j'entends ceux qui sont consacrés à Dieu de façon permanente, homme ou femme, en 1790, il y a deux hommes pour une femme. En 1778, il y a trois femmes pour deux hommes. Et aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Avez-vous remarqué, je le cherche, j'espère le trouver, sur la courbe que je vous ai donnée tout à l'heure des congrégations religieuses, eh bien, on voit la courbe se croiser entre le nombre des hommes et le nombre des femmes, environ vers 1850. C'est un phénomène que nous trouvons aussi en Italie, en Espagne et en Belgique. En tout cas, c'est un phénomène actuel dont il faut tenir compte et qui a marqué assez profondément le catholicisme français. Quant au pourcentage de la population féminine concernée par les religieuses, il a été en 1881 de 7 pour 1000 en France, c'est-à-dire 1% presque. Mais ce n'est pas une catastrophe, puisqu'au Canada, en 1940, il était de 18 pour 1000, près de 2%. Ce sont des chiffres assez étonnants, il est redescendu depuis. Toujours autour de 3 à 4 pour 1000. Toutes ces références, comme vous voyez, vous donnent peut-être l'impression que Émilie de Villeneuve se fond dans une espèce de paysage et n'a aucune originalité. Je pense qu'elle n'aurait pas été mécontente d'ailleurs de se sentir ainsi en communion avec quantité d'autres femmes de son temps qui ont vécu cette aventure de la vie chrétienne en congrégation. Il y a cependant un aspect, le dernier, sur lequel, l'un des derniers sur lequel je voudrais insister, c'est qu'elle se retrouve alors avec un petit groupe et avec une orientation missionnaire. Là encore, on peut voir les préparations familiales. Son père, officier de marine, a voyagé en Amérique, au Moyen-Orient, et ensuite a dû en parler. On peut aussi y voir un coefficient local. Le Tarn est célèbre par ses missionnaires au XIXe siècle. Je citerai simplement Mgr Henri de Solages, évêque des mers du Sud, mort en 1830 à Madagascar. Plus tard, Mgr Bessieux, qui n'est pas directement du Tarn puisqu'il est né dans l'Hérault, mais qui était en lien avec la famille de Villeneuve. Vous avez ici les vicariats apostoliques en 1841. En 1830, Mgr Henri de Solages était chargé d'un vicariat apostolique allant du Cap à la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez l'espace qui lui était réservé. Alors bien sûr, il n'a pas pu y faire face, il est mort à Madagascar en 1830. Par contre, ici, nous sommes en 47 plutôt. Les vicariats apostoliques se sont multipliés et les religieuses de Castres, les sœurs bleues de Castres, vont être amenées à se diriger vers deux vicariats, le vicariat du Cap-Vert et le vicariat de Guinée. C'est grâce à cela que nous avons parmi nous ce soir plusieurs religieuses de cette région. Et cela remonte à 1848. Il faut dire que cette œuvre missionnaire, elle l'a faite en accord avec un homme tout à fait remarquable de l'époque, le père Liebermann. Il a été son conseiller, mais surtout aussi son guide dans ce domaine tout neuf où elle n'était jamais allée. Et je voudrais vous citer un texte du père Liebermann pour terminer quand même assez vite, ne pas abuser de votre patience, qui définit bien l'esprit dans lequel Émilie de Villeneuve a entrepris cette mission en Afrique. Voici une façon plus détaillée le domaine où Émilie de Villeneuve a envoyé ses filles en 1848, quelques jours après la révolution de 48. Elles ne sont pas les premières, puisque dès 1822, Anne-Marie Javoué a envoyé les sœurs de Cluny à Gorée, l'île de Gorée tout à fait en haut, à gauche, au sud de Saint-Louis. Là. Alors, elle les a envoyées à Saint-Louis, puis à Bathurst, et plus tard au Gabon. Et l'évêque que vous voyez au centre, c'est Mgr Bessieux, premier apôtre du Gabon, celui qui a accueilli et amené d'ailleurs les sœurs bleues de Castres dans ces parages-là. Pour revenir à Liebermann, voici un texte, un conseil qu'il envoyait et qu'il distribuait aux missionnaires partant pour l'Afrique, tout à fait à cette époque, en 1848, que les sœurs ici, entre les trois religieuses qui sont parties à ce moment-là, ont pu lire. Un point sur lequel il serait utile qu'elles fissent attention, c'est la manière de traiter avec nos pauvres noirs. Ces pauvres gens sont ordinairement méprisés et maltraités par les Européens. Ceux même des Européens qui ne les maltraitent pas agissent au moins à leur égard de manière à les rabaisser à leurs propres yeux, ce qui abaisse leur caractère et leur donne des sentiments et des goûts bas, grossiers et misérables. Il faut que nous les traitions avec une bonté toute particulière et que nous les guérissions de cette opinion vile qu'ils ont d'eux-mêmes. Que nous leur respirions des sentiments plus élevés, le tout sans flatter leur vanité à laquelle ils sont portés tout naturellement. Il faut les traiter avec simplicité, évitant cependant de se familiariser. Ici, il y a un double écueil. D'un côté, la douceur qui tient à la faiblesse, une simplicité qui prête à la familiarité. D'un autre, une fermeté qui tient à la raideur et une autorité qui tient à la hauteur pour se faire respecter. Je regarde partout, même en Europe, comme un mauvais système opposé à l'esprit de l'Évangile que de faire sentir aux gens la distance qu'il y a entre nous par la tenue, la conduite, la manière de parler et d'agir. Mais ce système est détestable vis-à-vis des Noirs parce que ce système ne les dégrade que trop dans leur esprit et les défait leur caractère, etc. Alors, autre passage. Une réflexion n'est plus importante. Les sœurs doivent avoir l'intime conviction qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'elles auront à faire et la manière dont elles doivent s'y prendre pour faire le bien. Elles doivent arriver sur la côte comme de petites enfants d'un an et se laisser guider en tout par Monseigneur Benoît, faire leur possible pour prendre l'esprit de genre à la manière d'agir qu'il leur inculquera. La raison en est qu'en venant d'Europe, on est trop habitué à l'état des choses européennes. On veut l'établir là où les mœurs et les manières d'être sont tout à fait radicalement différentes. On cherche alors sans y penser à amener les gens du pays à prendre le temps et les manières d'Europe. Le résultat qu'on obtiendrait, ce serait de gâter tout, de donner à ces bonnes gens des mœurs et des habitudes européennes abattardies. Il faudra prendre le contre-pied, laisser aux indigènes les mœurs et les habitudes qui leur sont naturelles, les perfectionner en les animant par les principes de la foi et des vertus chrétiennes et corrigeant ce qu'elles ont de défectueux. Il faut que nous prenions plutôt leurs mœurs et leurs habitudes que de vouloir les former aux nôtres. Voilà un texte de 1848 qui n'est teinté d'aucun colonialisme, ni politique, ni économique, ni culturel, et qui montre dans quel climat Émilie a pu prendre des risques et a su prendre des risques. Il resterait un dernier point, mais je vous le signalerai simplement pour ne pas vous fatiguer, et je crois que pas abuser de votre patience, c'est le regard qu'on pourrait porter sur la vie personnelle d'Émilie au point de vue religieux et la vie avec ses compagnes. Nous avons vu déjà son culte de la Sainte Vierge. Nous pourrions parler aussi de son culte du Sacré-Cœur, très répandu dans les milieux légitimistes, surtout après l'épisode des guerres de Vendée. Nous pourrions parler encore de son opposition aux expressions trop sensibles de la foi, de son peu de romantisme dans le milieu et le temps de l'époque. Vous savez comment elle a été mêlée à une histoire de révélation et d'apparition. Elle s'en est méfiée très fort et a su s'en détacher. Par contre, elle a été beaucoup plus accommodante pour ce qui est des reliques et des indulgences. Elle, si économe, avait prévu des sommes importantes pour l'acquisition des reliques de Sainte Flavienne, et elle estimait qu'il était presque aussi important que sa congrégation soit reconnue par Rome et que surtout des indulgences plénières généreuses lui soient accordées. En même temps, pour Rome, elle s'est sentie, comme bien d'autres, une grande affection et un grand respect. C'est ce qu'on appelle l'ultramontanisme. Le pape Pie IX, dit-elle, est celui à qui je voue le plus d'attachement. Je n'en ai jamais eu autant pour aucun pape qui l'ont précédé. C'est là l'un des courants que l'on trouve à l'Église de France, et il semble bien qu'elle y ait participé. Dernier point, enfin, la pratique quotidienne de la vie chrétienne et la pratique de la communion eucharistique. Eh bien, sur ce point-là, il me paraît que Émilie de Villeneuve est moins janséniste que bien des gens de son temps. Certes, pour elle, la communion reste la sanction d'une vie chrétienne intègre, mais elle va jusqu'à la permettre deux fois par semaine pour les religieuses et presque quotidiennement à la fin. Dans tout cela, me direz-vous, que devient le Saint-Esprit et la grâce? Je vous ai donné tellement de chiffres, de statistiques, de données extérieures, que je me demande si je n'ai pas oublié la grâce de Dieu. Bien, je ne crois pas. Je ne crois pas, je l'ai au contraire, me semble-t-il, respecté. Et je crois que j'ai bien traduit l'équilibre, la sérénité, la fermeté, la personnalité d'Émilie de Villeneuve, qui croyait certes que les moyens humains étaient insuffisants, mais qui n'évitait jamais de choisir les meilleurs. Et à travers ces méandres de l'histoire que nous avons parcouru un petit peu ce soir, à travers ce caractère particulier et très attachant, n'est-ce pas une grande espérance qui nous est donnée de voir ainsi la grâce de Dieu cheminer, précéder même les intentions et les générosités des hommes. Si ce n'était qu'un modèle à nous présenter, qu'en ferions-nous? Il n'est plus possible de le reproduire aujourd'hui. Mais si nous cherchons un peu, je crois qu'Émilie de Villeneuve reste une source d'invention, une source d'espérance, une source aussi toujours présentée à nous aujourd'hui.